Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Aujourd'hui, un extrait sur le monde de la bande dessinée de l'époque, et on vous repasse deux autres extraits déjà entendus, la bibliothèque et le couvent. Bibi Fricotin. Des illustrés, il y en a toujours eu, mais d'un seul coup, voilà qu'ils ont changé. Avant, il y avait l'épatant, il y avait le petit illustré, il y avait Cricri, et aussi Fillette pour les filles. Moi, c'était le petit illustré. Depuis tout petit, maman m'achetait chaque samedi le petit illustré parce que dedans, il y avait les aventures de Bibi Fricotin qu'elle adorait. Elle les lisait après moi quand j'avais fini, ou des fois, je les lui lisais à voix haute, pendant qu'elle faisait la vaisselle, et elle riait, les sourcils froncés comme si elle avait honte de rire, et elle disait « Non, c'est idiot, pas possible d'inventer des bêtises pareilles. » Papa nous voyait rire, alors il voulait rire aussi. Je lui montrais les images, je lui expliquais toute l'histoire, rien qu'avec des mots de tous les jours, pour qu'il comprenne bien. Et quand il avait compris, il riait plus fort que tout le monde, tellement les larmes lui coulaient. Une fois, je me rappelle, Bibi Fricotin avait échappé à je ne sais quel péril en s'envolant dans une machine volante qui ressemblait à un très gros moineau. Il y avait deux trous pour laisser passer les bras et empoigner les leviers qui faisaient battre les ailes. Bibi Fricotin agitait les ailes et la machine s'envolait avec lui dedans. Moi, ça me faisait rêver. J'aurais bien voulu voler comme ça, comme un oiseau, sans moteur, sans bruit, et atterrir où ça me plaît. Papa, ce gros oiseau de bois avec les jambes et les bras de Bibi Fricotin qui passait par les trous, les plumes et la queue, le bec, ça le faisait rire de tout son cœur. Quand j'avais fini mon petit illustré, je le passais à Jean-Jean qui me refilait les patins. Dans les patins, il y avait les pieds nickelés. Ils étaient encore plus marrants que Bibi Fricotin. Mais ils me faisaient un peu peur. Je devais être trop petit. Je voyais bien que c'était dessiné par le même bonhomme, un nommé Forton. Il y avait son nom au bas de la page. Mais c'était pas des bons petits gars de Paris un peu farceurs et le cœur sur la main, comme Bibi Fricotin, oh non. Trois terribles gueules de crapules voyous et ricanantes, des vrais gibiers de bagne, méchants comme tout, voleurs, menteurs et très mal élevés. Quand on se faisait piquer avec ça dans son cartable à l'école, même si on n'était pas en train de le lire, confisqué, avec une engueulade à la clé. Que c'est pas là-dedans qu'on apprendrait l'orthographe, ni l'honnêteté, ni les bonnes manières, qu'on deviendrait des apaches et des déserteurs devant l'ennemi, et que de pareilles cochonneries devraient être interdites, on se demande ce que fait le gouvernement. Dans Cricri, il y avait les aventures acrobatiques de Charlot par Tomène. Charlot était vachement ressemblant, mais ses aventures pas marrantes du tout. Ce type avait beau se donner du mal et dessiner très bien, il avait quelque chose qui nous plaisait pas. J'aimais bien les deux pages du milieu du Dimanche illustré. À gauche, Bico, président de club, à droite, Zig et Puce. Bico était très populaire parmi nous. Ce gosse de riche qui cavalait avec les merdeux des terrains vagues, c'était tout à fait la rue Sainte-Anne et les rues à pavillons coquets des alentours. Pour moi, l'Amérique, ce sera toujours les paysages des dessins de Bico, gris-bleu et rouge-orange, avec les grosses prises à incendie sur les trottoirs et les mômes qui se font des sous en balayant la neige devant les maisons. On était tous amoureux de Suzy, la sœur de Bico, qui avait de longues jambes, des yeux de poupée, s'habillait vachement chic et avait plein d'amoureux très cons avec des dents de cheval et des grandes oreilles rouges. Vint l'âge des curés, le catéchisme. Un jour, l'abbé Martin nous dit, après l'instruction religieuse, qu'il ne fallait pas lire les mauvais journaux parce qu'ils étaient pleins d'ordures qui salissaient notre âme. Il nous donna la liste des illustrés qu'il ne fallait absolument jamais lire sous peine de péché mortel. La liste, c'était l'épatant, le petit illustré, Cricri et Fillette. J'étais, je vous l'ai dit, boulimique de lecture. Je lisais l'imprimerie jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au nom de l'imprimeur, celui de l'éditeur, l'adresse de la rédaction, tout, je vous dis. Si bien que j'avais remarqué que les journaux maudits étaient tous publiés par la même éditeur et j'avais même retenu son adresse, 43 rue de Dunkerque. Je me dis que certainement là devait habiter le diable, ou tout au moins de très méchantes gens qui s'étaient vendus à lui et avaient pour mission d'envoyer le plus possible de petits-enfants en enfer. Après un dur combat intérieur, je décidai de ne plus acheter le petit illustré et d'offrir à Jésus mon sacrifice. J'avais le cœur bien gros, mais j'étais résolu à tenir bon. Là-dessus, l'abbé nous dit qu'elles illustrées pouvaient être lues avec profit par un enfant chrétien. C'était Pierrot, Guignol, ainsi que Lisette, la semaine de Suzette pour les filles. Je connaissais, c'était le genre de truc que lisaient les enfants des patronnes de maman. Fadasse et chiant. Enfin, puisqu'il fallait arriver pur à la table de la Sainte Communion, bon, tant pis. Je choisis Pierrot, et morne mais rayonnant de l'amère allégresse du martyr, j'offris encore ça à Jésus. Quand j'expliquais à maman qu'il fallait plus acheter le petit illustré, elle eut de la peine. Elle me dit « C'est pourtant pas bien méchant, si le bon Dieu s'offense de ça, il a l'esprit rudement mal tourné. » Je fus intraitable. Le démon avait beau déployer ses ruses les plus déloyales, il ne m'aurait pas. Je voyais Jésus sourire doucement là-haut et me cligner de l'œil. Maman, dorénavant, m'acheta donc Pierrot, qu'elle n'arriva pas à aimer, et qui coûtait 30 centimes au lieu de 25. Elle regretta longtemps son bibi fricotin. Elle n'avait déjà pas tellement de plaisir sur terre, il a fallu que je la prive de celui-là, saleté de curé. Et voilà qu'arriva d'Amérique, tonitruante comme une parade de cirque, l'irrésistible vague des journaux de bande dessinée. Ils n'eurent qu'à paraître pour nous conquérir, nous fasciner. Robinson, Hourra, Topla, Tarzan, Journal de Mickey, ça claquait aux étalages, nous chopait par l'œil. Au premier choc, nos chers vieux petits illustrés barbichus furent renversés cul par-dessus tête. Les pieds nickelés, Bimi Fricotin, Bécassine, l'espiègle Lily, avec leurs dessins tout petits et dessous leur épaisse tartine de texte serré que personne ne lisait sauf moi, ne firent pas long feu devant les pages grand format bourrées d'images, rien que des images bien au carré, devant les couleurs brutales en veux-tu en v'là, le découpage cinéma et le texte réduit au strict nécessaire des dialogues, jaillissant tout droit de la bouche des personnages. Pas de récit, pas de commentaires, tout dans le dessin, aussi direct que le cinéma parlant. Et le bruitage, schniak, squeeze, oumph, grrr, tacatacatac, braum, zig, burp, erg, zzz. Plus le bruit était fort, plus c'était écrit gros, en lettres de couleurs éclatantes qui barraient toute l'image. Ah, ils n'avaient pas la trouille, les amerlocs. T'étais en plein dedans, dans l'image, dans l'histoire, comme au ciné. Et ça changeait d'angle, ça te promenait. Un coup, tu voyais la scène d'en haut, comme si tu plongeais du ciel. Et le coup d'après, hop, d'en bas, comme si t'étais couché par terre sur le dos. T'étais partout à la fois, près, loin. Des fois, tu voyais avec les yeux même du héros. Tu étais le héros. Le coup d'après, tu te voyais, toi, héros, avec les yeux du sale mec dingue qui veut devenir maître du monde. Quelle vie, quel mouvement, quel héros! Tarzan, Jim la Jungle, Guy l'Éclair, Luc Bras de Fer, Teddy et les Pirates, Fu Manchu, Annie l'Orpheline, Ramener les Vivants, Red Reader. Des gonzesses inouïes, toujours à moitié à poil, avec des voiles transparents et la cuisse qui passe par la fente. Ah la vache! Celle d'Alex Raymond, surtout, me mettait dans un drôle d'état. Oui, nos petits journaux. Eh bien, nos petits journaux, ils durent évoluer ou crever. Comme ils ne faisaient pas le poids devant l'avalanche américaine, ils crevèrent. Après quelques soubresauts, les patents devint junior ou quelque chose comme ça. Le petit illustré devint las, ce qui faisait encore plus poussiéreux, plus vieux con, guirgule 14 en plein, et se mit à publier des bandes dessinées las françaises. Les lourdes astuces et la faconde Marius et Olive de Matt et compagnie pouvaient toujours s'aligner devant l'éblouissant Luna Park américain. Seuls les mornes cucuteries Curton réussirent à se cramponner, grâce aux marraines de province qui y abonnaient traditionnellement leurs filleuls aux anniversaires. De toute façon, jamais Pierrot ou Le Pèlerin n'avaient été cotés à la bourse d'échange des illustrés. Pas un pé de lapin. Le fils Prati, le produit d'Italie de la Grande Rue qui avait de l'argent de poche, achetait tout ce qui se paraissait et puis leur filait aux autres. Il n'était pas collectionneur. Je me trouvais en bout de circuit, il me parvenait à l'état de loque graisseuse. Je courais les dévorer dans la solitude. Je sautais tout de suite aux pages des héros comiques. Popeye, Pim Pam Pum, Illico. À part Mickey, Donald et toute la bande à Walt Disney qui m'emmerdait ou je reniflais je ne sais quelle odeur de poisseuse hypocrisie. Pourtant, je raffolais, j'en folle toujours, les dessins animés de Walt Disney, les six symphonies. Je préférais spontanément les rigolos aux tragiques. J'ai pas changé. J'aime rire. J'aime qu'on me fasse rire. À l'école, pas besoin de me dire pourquoi et comment il faut apprécier Molière, La Fontaine, Rabelais, Voltaire, La Bruyère. Par contre, Corneille, Racine, la chanson de Roland, Rousseau, Lamartine, oh les sales cons prétentieux, les faisant foirer dans Kikineur de pauvres gosses. Et le roi des emmerdeurs, Chateaubriand. 10 pages à l'avance, t'as compris où ils veulent en venir. Ça fait rien, pas de pitié. Tu te les appuieras, les alexandrins si bien harmonieux. Ce triste grand comte Rodrigue avec sa bêlante chimène. Depuis le début, t'as pigé le bazar, le paradoxe sublime, l'atroce déchirement. Qui corrélit ça, ma pauvre dame? Comment ça finit? Pas dur à deviner, puisque la règle du jeu, c'est l'honneur avant tout. N'empêche, tu t'appuieras tout le machin. Parce que le suspense, c'est bon pour les grossiers. Toi, t'es là pour goûter les austères délices de la forme. Merde. Le comique, ce qu'ils appellent, c'est la vie, quoi. Ça va, ça vient, ça te secoue, tu participes. Le tragique est toujours mélo, toujours. Pour faire pleurer et faire frémir, il n'y a pas 50 trucs, il n'y a que le mélo. Mélo chic ou mélo popu, mélo sublime sur 12 pieds ou mélo roman feuilleton, mélo moral ou mélo cynique, mélo. Le Cid ou Pépé le Moko, même chien lit. Je donne tout au maire pour Gargantua. Et comment ?
Belza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter, danser, villageois, la nuit gagne, le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma seigneura? Sa mère était la vieille Mograbine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu. Un fendon rouille, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois, la nuit tombe. Sabine, un jour, a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
La bibliothèque. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai su lire très tôt, vers 4-5 ans. Oh, pas que moi d'ailleurs, les autres mômes aussi. Hein. Ceux qui avaient la chance d'être des enfants de purotins et de se voir cloquer chaque matin sur le coup de 8 heures devant la maternelle du boulevard Gallieni par leur mère, cavalante, qui les posait là comme un lapin pose sa crotte, sans s'arrêter de foncer vers les ménages nutritifs en essuyant une larme. Maman venait me reprendre à midi, toujours en courant, me couper mon beefsteak. Bon, je savais le faire, hein, mais j'étais lent. Comme un jour sans pain. Ça l'énervait. Avaler ses nouilles, debout, coincée entre la table, le réchaud à gaz et la pierre à l'évier. Elle avait juste à tourner un peu les hanches, elle débarrassait d'une main, lavait la vaisselle de l'autre pendant que je mangeais mon dessert. C'était commode, juste à se pencher un peu, un coup à droite, un coup à gauche, cuire, bouffer, vaisselle. Tout ça debout, sans changer de place. Un tourbillon immobile, maman. Un moulin à vent. Me torcher le bec d'un revers de lavette. Finis ton verre. Tu crois quand même pas que je vais le jeter au prix que ça coûte? On voit que c'est pas toi qui a le mal de le gagner, hein? Je finissais mon verre. Un tiers de vin, 2 tiers d'eau chaude. J'aimais pas beaucoup. Enfin, surtout l'eau chaude. Maman buvait toujours son vin coupé d'eau chaude. Donc, moi aussi. Pourquoi chaude? Va savoir. Ça doit être bon pour la digestion, ou en tout cas, c'est ce qui doit se dire à Forges, paroisse de Sauvigny-les-Bois, dans la Nièvre. Un coup de peigne et en route. Me revoilà à la Maternuche. Il y en avait, y restait le midi à la cantine. Quel prestige! Ils se sentaient dans l'école plus chez eux que nous autres. Je les enviais. En même temps, ça me faisait très peur. Une fois, j'y suis restée, à la cantine. Maman était allée voir sa sœur malade à Paris, quelque chose comme ça. C'était de la purée avec du haché. J'ai rien pu avaler. Le haché, je connaissais. Maman me faisait manger du cheval haché pour me fortifier. Mais pas comme ça. Elle, c'était dans du bouillon qu'elle versait dessus. « Mange vite! Sans ça, ça va cuire le haché et tout le fortifiant sera parti. C'est le bon sang rouge qui donne des forces. Si c'est cuit tout blanc, ça vaut plus rien. » Et par là-dessus, le coup du docteur. Un fond de verre de vin rouge pur. Hop! Je sentais les forces me cavaler partout du haut en bas. À la cantine, on buvait du coco. J'aimais bien ça. Mais juste un verre pour tout le repas. Fallait le faire durer. Bon. Rien pu avaler. Madame Casse m'a gueulé dessus. Elle me terrorisait. Elle était grosse, très brave, mais ça se voyait pas. Elle avait de la moustache et la baffe rapide. Elle a dit que j'étais un délicat, que maman me gâtait, que je serais jamais un homme. J'ai pleuré. Madame Casse a dit « Je le dirai à ta mère, que t'as rien mangé et que t'as pleuré. » Et elle l'a fait, la vache. Maman a dit « Plus jamais je te laisserai manger loin de moi. Plus jamais. » Il va me tomber en faiblesse. Allez, viens vite. Tu te sentis la tête qui te tourne? Mais regardez-le donc, il est tout blanc. Elle m'a acheté une banane sur le chemin. Ha, j'avais bien besoin de le laisser à leur saleté de cantine aussi. Ça t'apprendra, Marguerite. Tu recommenceras, hein? Vieille bête. Elle s'est engueulée, traînée dans la boue toute la nuit. J'entendais le bruit des gifles qu'elle se donnait. Papa a fini par lui balancer une godasse à travers la chambre, dans le noir. Il l'a loupée. Et il a loupé aussi la glace de l'armoire. Ça valait peut-être mieux comme ça. Madame Casse n'a plus été gentille avec moi comme avant. C'est elle qui nous surveillait le soir après 4 heures, quand les maîtresses étaient parties et qu'on attendait que nos mères viennent nous chercher, l'une après l'autre, suivant l'heure où elles finissaient leur lessive chez leur patronne, au diable dans la nuit d'hiver. Elles sentaient la sueur, le savon noir et l'eau de Javel. Elles avaient les mains toutes ramollies, décolorées avec de la peau en trop qui faisait des grimaces. C'était d'être restée toute la journée dans l'eau. On les attendait bien sages, assis sur des bancs dans le préau, en regardant des livres d'images très vieux, tout déchirés, avec des ogres et des crapauds et des ours et des diables et des gendarmes et des mauvais sujets qui devenaient des assassins féroces. Du sang partout, épouvantable, en couleur, mais des couleurs qui bavaient, débordaient, surtout le sang. Qu'est-ce qu'il y avait comme sang? Tout rose il l'était, le sang. Je sais aujourd'hui que c'était des albums d'images d'Épinal, coloriés au pochoir. Ils dataient au moins de Napoléon III. On les regardait en mangeant notre 4 heures qu'on avait apportées dans notre petit panier à rabattant. Moi, c'était toujours un petit pain au lait avec une barre de chocolat à la crème, toujours. La crème qu'ils mettent dans le chocolat, c'est rien que du malsain et rien que du chimique. Maman me disait ça à chaque fois. Plus c'est des belles couleurs, plus c'est chimique. Ça empêche de grandir. Mais moi, du chocolat qui est rien que du chocolat sans dedans, en plein milieu, une belle crème rose ou verte ou jaune. Tu sais pas d'avance de quelle couleur elle sera, la crème. Tu fermes les yeux, tu mords une bouchée, tu regardes, paf, jaune. T'avais parié verte. Du chocolat sans crème, c'est triste, c'est pas rigolo. Là, j'ai été inflexible. Maman a cédé sur la crème, en me ronchonnant la chimie qui fait des trous dans l'estomac à chaque fois. J'avais quand même un peu peur. À nos gens, on a beaucoup de chance. Je l'ai déjà dit, mais on en a encore plus que ça. On a un maire. Bon, on n'est pas les seuls, d'accord. Mais attendez, notre maire, c'est le plus riche de la commune. Bon, comme partout, d'accord, d'accord. Seulement lui, il s'appelle Champion. Pierre Champion. Et c'est un écrivain. Célèbre même. De l'Académie Goncourt. Un historien. Il a écrit des livres sur Louis XI, sur Charles VII, sur Jeanne d'Arc, la guerre de Cent Ans, toute cette époque. C'est sa spécialité, une vraie passion. Et justement, à nos gens, ça tombe bien, puisque c'était là, à mi-côte, au lieu dit Beauté, très exactement, que, comme je vous le disais, le roi Charles VII avait fait construire un château pour sa poule. Agnès Sorel, surnommée pour cela très finement la Dame de Beauté. Calembour, faut rire, mais aussi madrigal exquis, faut juste sourire en connaisseur. Le roi regarde. Ce château, ou ce qu'il est devenu par la suite, appartient justement à monsieur le maire, Pierre Champion. Je ne l'ai jamais vu, hein, parce qu'il se trouve au beau milieu d'un parc énorme entouré de murs tout autour qui commence à la rue Charles VII, c'est-à-dire presque à la Grand-Rue, au centre même de Nogent, et dégringole la côte jusqu'à la Marne, ce qui représente un bon morceau de la superficie de la commune. Hein. Une espèce de campagne en pleine ville, bien close. Il paraît que c'est très beau dedans. Tout autour, les rues ont les noms assortis. Rue Charles VII, rue Agnès Sorel, avenue de la Dame de Beauté, rue du Jeu de l'Arc, rue du Jeu de Paume. Je ne saurais pas dire si Pierre Champion les a trouvés déjà là ou si c'est pour lui faire plaisir qu'on les a baptisés comme ça. Monsieur Pierre Champion est le maire de Nogent depuis toujours. Moi, j'en ai jamais connu d'autre. Je le vois chaque 14 juillet au vin d'honneur. Quand je vais avec les autres enfants des écoles lui chanter la Marseillaise sur les marches du grand escalier devant la mairie. Contre nous de la tirelire, même qu'on a droit à un petit coup de vin blanc, avec beaucoup de limonade autour et un biscuit pour tremper dedans. Si tu sais te démerder, tu te ramènes des pleines poches de biscuits, tu vannes. Monsieur Pierre Champion fait du bien à la commune. Il y a à Nogent deux compagnies de tir à l'arc et une tire à l'arbalète. Il n'y a pas de batterie de tir à la bombarde, pourtant c'est aussi une arme pittoresque du temps de Charles VII. L'arbalète, elle est rue des Jardins, juste en haut de la rue Sainte-Anne, le long du terrain tout long, tout maigre qu'il y a derrière le bistrot à Madame Pélissia. Le terrain de l'arbalète est encore plus maigre. C'est parce que l'arbalète, ça tire loin, mais c'est pas large. Plus large qu'un fusil, d'accord ? À cause de cette espèce d'arc en fer qu'il y a au bout, mais pas bien large quand même. La cible a un bout, le bonhomme avec son arbalète à l'autre bout, les autres derrière qui attendent leur tour. C'est des pépères un peu vieux avec du bide et des gilets de laine tricotés à la maison. Comme ceux qui jouent aux boules au bois de Vincennes. Mais ceux-là se croient pour de vrai à la guerre de Cent Ans, ça rigole pas, tradition et tout. S'ils osaient, ils s'habilleraient tout en fer. On se fait la courte échelle pour les regarder par-dessus le mur aux Pélissias. Ils nous engueulent. « Qu'est-ce que vous espionnez, sale môme ?» Ils parlent d'aller chercher les flics. Le tir à l'arbalète, ça rend pas gracieux. Merde ! Qu'est-ce qu'ils ont dû se laisser aller sur la figure, les gougnafiers de la guerre de Cent Ans ? En plus du tir historique aux armes de musée, M. Champion fait beaucoup pour l'instruction publique et les belles lettres. Par exemple, la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale de Nogent, pour un dévorant d'imprimés comme moi, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est le grenier de la grand-mère que j'ai jamais eu. C'est les yeux plus grands que le ventre. C'est l'extase et le paradis. Tout le premier étage d'une espèce de château dans la grand-rue, juste en face du restaurant Cavana. Au rez-de-chaussée, il y a le commissariat. Faut passer devant tous ces flics pour aller chercher des livres. J'aime pas tellement, je serre les fesses, mais enfin, bon... Hein. J'ai découvert la bibliothèque avant le bordel, longtemps avant. Je devais avoir 12 ans. Un peu plus tôt, j'avais connu la bibliothèque de la classe. Le père Bouillet nous avait sacrifié une armoire vitrée et fermant à clé. « Faites cadeau à la classe des livres que vous avez en double », il avait dit. En double ? Il y avait des types qui avaient des livres en double ? Ha ! Ouais, la bibliothèque compta bientôt une centaine de livres, soigneusement couverts par nous de papier bleu foncé, avec au dos une étiquette et un numéro. Le numéro correspondait à un titre porté en belle écriture ronde dans le catalogue. J'eus dévoré l'armoire entière en 3 mois, vitres et serrures comprises. C'était surtout des bibliothèques vertes, des Jules Verne, Molière, Corneille, Racine en petits fascicules, Vaubourdol avec note explicative au bas de la page, Le Livre de la Jungle, Le Petit Prince, Cro-Blanc, La Mare au Diable, Les Lettres de Montmoulin, L'Iliade, L'Odyssée, La Fontaine, Shakespeare, hélas en anglais, Alice au Pays des Merveilles, en anglais aussi. J'ai même essayé Alice, je ne connaissais pas un mot d'anglais, mais je pensais que la bonne volonté devait y arriver. Il n'y avait pas de raison. je parvenais bien à déchiffrer, que je croyais, la buona parola bollettino mensile della missione cattolica italiana. Envoyé d'office à papa qui ne savait pas lire, mais était très flatté qu'on fît comme si ça ne se voyait pas. Dès que dans mon tendre cerveau se furent accrochés solidement les petits circuits réflexes entre le parler et l'écrit, je fus enfin moi-même. Une machine à décoder de l'imprimé, conditionnée comme le chien de Pavlov qui salive quand sonne la clochette annonçant la pâtée. J'ai vu ça dans mon livre d'histoire, enfin dans mon livre de Saint-Snat. Non, on disait dans mon livre d'histoire naturelle. C'est peu de dire que je savais lire. Je ne pouvais pas ne pas lire. N'importe quoi, partout, toujours. Le couvercle de la boîte à camembert, sur la table, pendant le déjeuner. Camembert A, le petit et fils, fabriqué en Normandie. Ça, c'était écrit en doré tout autour, en petit dans un rectangle, syndicat des producteurs du véritable camembert de Normandie. Et encore plus petit dans des médailles, Grand Prix Exposition Internationale de Chicago 1920, Médaille d'or Exposition Internationale de Paris 1880, hors concours Exposition Coloniale Paris 1934. Je lisais tout à chaque fois que ça me tombait sous l'œil, c'est-à-dire 350 000 fois par repas, du début à la fin. Je lisais tout, jusqu'au nom de l'imprimeur écrit tout petit dans le coin en bas. C'était chiant à hurler. J'essayais de regarder ailleurs. Ailleurs, il y avait la boîte de sel Cérébos avec le poids net, l'adresse de la fabrique, pur sel de mer, tant pour cent de magnésium, tant pour cent d'iode. L'iode, il n'y a rien de tel pour les bronches, disait maman. Il y a du fer dans l'iode. Il y a de la teinture aussi dedans. C'est pour ça que ça donne des bonnes couleurs. Des médailles et des expositions internationales, ça doit être marrant. Les expositions internationales, tous ces camemberts, ces boîtes de sel, ces petits beurres, ces rouleaux de papier hygiénique bien rangés à côté les uns des autres sur de longues tables, j'imagine, et ces messieurs instruits, ces présidents de la République qui passent devant graves et goûtent du bout du doigt, du bout de la langue et hochent la tête, goûtent l'autre, hésitent, celui-là, pas mal du tout, ah mais celui-là, oh et l'autre là, oh là là, et tout à coup, sourit. Extase, et n'hésite plus, celui-ci, voilà le bon camembert, d'excellent sel, l'exquise cire à parquet. Et épingle, solennel et ému, la médaille d'or à la poitrine du fabricant valeureux qui, bien élevé, dit « Non, vraiment, c'est trop, fallait pas ». Défaillant de fierté et d'envie de pisser, 5 heures debout à attendre le président sans oser bouger, c'est long. Impossible donc de ne pas lire. Les affiches sur les murs, le « défense d'afficher » sur les murs où sont défendus d'afficher loi du « je sais plus combien de juillet 1881 ». Dans un paysage, s'il y a de l'écrit dans un coin, je vois plus le paysage, je lis l'écrit et je rêvasse à tout ce qui vient s'accrocher derrière ce que raconte l'écrit. Les choses, pour moi, c'est d'abord des mots écrits. Si on me dit « cheval », si tout seul dans ma tête je pense « cheval », je vois le mot « cheval » imprimé, attention, pas écrit à la main, imprimé en minuscule d'imprimerie, je le vois là, devant moi, noir sur blanc, avec le hargneux crochet de son C au bout à gauche, son H, pas trop aimable non plus, qui dépasse en l'air, ainsi que le L, son V prétentieux au milieu, son E très gonzesse, son A pansu, assis sur son gros cul, « cheval ». Après, seulement après, je vois la bête. Tout ça se fait beaucoup plus vite que je l'explique, à une vitesse fantastique. Mais j'ai quand même le temps de bien le voir, le mot, avec tous ses détails, sa physionomie, son mauvais caractère ou son clin d'œil complice. Les mots, c'est vraiment des copains. Prends n'importe quel mot. Tiens, prends « café ». Sans réfléchir, sans analyser, quelle impression tu as ? Je veux dire, si tu vois un visage pour la première fois, tu ressens une impression, comme ça, au premier choc. Ben là, pareil, un mot, ça a une gueule. Café, moi, ça me fait, comme je vais dire, arrogant, maigre, grand seigneur. Don Quichotte, ouais, il y a de ça. Non, pas assez escogriffe, sec, précis, mais ample. Sobre munificence, un très beau mot. Il y a des mots avec des H en trop, des consonnes doublées, des O, des Holt, des un, des X. C'est ceux que je préfère. Ça leur donne une physionomie spéciale, un air précieux, un peu maladif, comme T. Ou au contraire, pétant de gros muscles comme apporté, recommandé ou qui fait grincer des dents comme exception. Il y a des mots à chapeau à plume, des mots à falbala, des mots à béquille et à dentier, des mots ruisselants de bijoux, des mots pleins de rocailles et de trucs piquants, des mots à parapluie. Quand on me parle, mais surtout quand je parle, je les vois passer un à un, à toute vibure, s'accorder, se conjuguer, s'essayer, un S au pluriel, le rejeter en pouffant parce que ça va pas du tout, grotesque elle est, vite, s'accrocher l'X qui va comme un gant. Ah, c'est bon. Salut, ça défile. Ça explique que très vite, j'ai su mettre l'orthographe. La grammaire m'a toujours été jeu proposé, aux règles passionnantes, jeu de logique et d'architecture. Jamais été foutu d'apprendre la belote ni le plus facile des jeux de cartes. Mais la grammaire, quel régal! Si je pense à tel épisode d'une aventure que j'ai lue, je vois le texte imprimé, je vois la page, celle de gauche ou celle de droite, et si ça se trouve en haut, en bas ou au milieu. Tous les jeudis matins, jour sans classe, j'allais avec un cabas à la bibliothèque municipale. Les livres étaient vénérables pour la plupart, tous uniformément vêtus d'une grosse reliure de toile noire faite pour résister pendant des siècles aux poignes calleuses des ouvriers avides de culture, suivant l'idyllique vision Jules Ferrique de l'instruction publique. On avait droit à 2 livres à emporter par personne inscrite. Alors j'avais inscrit papa et maman, ça me faisait compter avec moi 6 bouquins à dévorer par semaine. Avec les illustrés que me passaient les copains et les journaux que maman rapportait de chez ses patronnes pour allumer le feu et garnir la poubelle, ça me faisait de quoi tenir d'un jeudi à l'autre. Mais bien juste, hein. On choisissait sur catalogue, mais les titres qui vous faisaient envie étaient toujours en main. Fallait faire une liste par ordre de préférence. La barbe. J'aimais mieux fouiner dans les rayons et me laisser séduire par la bizarrerie d'un titre ou les effilochures d'une très vieille reliure. J'aimais les livres énormes. Je remontais la rue Sainte-Anne, le cabas bourré de gros bouquins me tirait de côté vers le bas. Les mères Rital me regardaient passer les yeux écarquillés par l'admiration et un vague effroi. « Ma, tout est quoi, ces livres? Tout va les lire, François? Oh, peut-être tu regardes seulement les images. Il n'y a pas d'image, je disais. Tu vas pas me dire que tu vas lire tout ces mots décrits tout seul, non? Ton père, je le sais que t'aider. Il peut pas pourquoi lire. Il sait pas. Ma Sarah toute marre, pourquoi elle? À sa lire, mais les tantes fatiguées, pauvres femmes, surtout le soir. Où je trouvais le temps? J'avais des journées bien remplies. L'école, les devoirs, les potes, la rue, les commissions. Je lisais la nuit dans mon lit. Dès que j'ai eu un lit à moi, d'abord à la lueur de l'ampoule du plafond qui devait faire dans les 25 watts, l'électricité, on voit bien que c'est pas toi qui a la paye, qui a la peine de le gagner, hein, et donner un chiche à l'eau jaune dont le peu qui arrivait à se traîner à bout de souffle jusqu'à mon livre se cognait par derrière à la couverture et ne servait guère qu'à me faire de l'ombre sur la page. Je devais me lever et traverser la chambre pour éteindre. L'hiver, c'était glacial. Rien n'était prévu pour chauffer ce réduit. Je courais me replonger sous l'édredon. Je me fracassais au passage l'orteil contre le pied du liquage. Une saloperie de ferraille anguleuse. Un jour, j'ai trouvé une vieille douille dans le fourbi de papa. Je l'ai emmanchée dans le goulot d'une bouteille de Chianti et ça m'a fait une lampe de chevet. Une fois ou l'autre, j'y mettrai un abat-jour. Des prises de courant dans les logements ouvriers, il n'y en a pas. Le strict nécessaire. L'ampoule du plafond et l'interrupteur près de la porte, j'ai bricolé une douille voleuse avec le culot d'une ampoule brûlée, un gros bouchon de liège et des bouts de fil de fer. J'ai branché les deux bouts des fils de ma lampe de chevet dans les trous et voilà, merveille, ma lampe s'est allumée. Elle avait même luxe un interrupteur incorporé fait d'un bout de couvercle de camembert sur lequel j'avais vissé des petits boulons avec une broche mobile découpée au ciseau dans un tube d'aspirine. Fallait avoir envie de lire. Bien calé sur l'oreiller, la couverture au ras des narines, le bouquin pesant de tout son poids mis sur mon estomac, je lisais jusqu'à ce que les yeux me brûlent. Et encore, je luttais, je me cramponnais. Une ligne de plus, une autre, plof, je basculais dans le grand trou sans même éteindre bien souvent. La lecture emplissait tous les interstices de ma vie. À peine éveillé, je tâtonnais de la main vers le livre comme un fumeur vers ses clopes. Je me traînais à table, mon bouquin sous le bras. L'installer devant moi, un peu à gauche, calé par un bout de pain ou par n'importe quoi à l'inclinaison exacte pour le confort de l'œil. Naturellement, maman râlait. C'est tout ce qu'il y a de plus malsain. Tous les docteurs te le diront. Tu t'esquintes la vue. Tu vas devenir bossu. Ce que tu manges te profite pas. Toutes ces bêtises te monteront à la tête. Tu vas me faire une conjection cérébrale. Qu'il n'y a rien de plus mauvais. Ou une méningite, c'est encore pire. Et tu sais, ou on en meurt, ou on reste fou. Et quelle charmante compagnie. C'est poli pour les autres, vraiment. Eh oui, mais rien à faire. Avant de passer à table, je me cherchais de la lecture. Le bouquin en cours, un livre de classe, n'importe quoi. Pour les cabinets, pareil. Le bout de journal que j'emportais pour me torcher, il fallait que je ne l'aie pas encore lu. Il allait être le compagnon de mon accroupissement. À part ça, j'étais un enfant joyeux, bavard, turbulent, plutôt teigne et châtaigneux. Rien du sombre renfermé qu'on pourrait croire. Je voulais tous les plaisirs, tous. Et celui-là était le plus fort de tous.
Je fais tout. Le couvent. Parmi les couvents des bonnes sœurs de la rue de Plaisance, il y a celui des Carmélites et il y a celui des sœurs italiennes. Quel genre de sœurs, j'en sais rien. Tout le monde dit les sœurs italiennes, c'est tout. Les sœurs italiennes ont une chapelle ouverte au public le dimanche avec un petit clocher par-dessus qui sonne comme une sonnette de porte de jardin. Les femmes de la rue Sainte-Anne iraient bien à la messe. Là, mais ça fait loin, elles font toujours tout en courant, entre deux ménages, deux marchés, deux lessives. Et le dimanche matin, ouais mais c'est le grand ménage à elles, c'est elles. Et la pasta ciudad affaire, oh i ravioli, oh i tortei. Alors, elles n'ont pas le temps, avant à la grande à glisser, qui est plus près, écho. Et si on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça. Ah oui, i tortei, tu voudrais bien savoir, hein. Eh bien, en vrai italien, c'est i tortellini. Je l'ai vu un jour sur le menu devant le grand cabana en face le commissaire. Peut-être que c'est pas tout à fait tourteille en dialetto. Moi, en tout cas, j'entends tourteille. Alors voilà, j'écris tourteille. Écho. Quand les sœurs italiennes ont des travaux à faire dans leur couvent, elles appellent des maçons italiens. Pas n'importe quel maçon italien. L'entreprise Cabana, Dominique et Dominique Taravella. C'est la plus sérieuse, question travail et question religion. Et quand c'est juste pour une bricole, un volet à sceller, une chiotte à déboucher, elles veulent absolument Monsieur Gros Louvi, mon papa, moi. Elles adorent papa. Il les fait rire. Dès qu'il arrive, ça leur tire les coins de la bouche vers les oreilles, rien qu'à le voir. Il est tellement innocent, papa. Tellement limpide, pur comme un nouveau-né. Il pose sur le monde ses yeux heureux de voir clair, ses yeux qui ne croient pas au mal. Et le mal a honte d'exister. Il blague avec les sœurs, avec la mère supérieure, de ces blagues de paysans où Dieu n'a pas la part belle. Et les sœurs rient, il finit par leur taper sur le ventre, par les tirer par un coin de leur voile pour bien leur expliquer. Et le voilà qui lance son grand rire au ciel. Va donc résister. Les autres parlent aux sœurs avec un respect plein d'onction. Et ils ont raison, ça serait raté. Papa ne fait pas l'innocent, il est innocent. Il le sait, il en joue, il connaît son charme. Il sent qu'il peut tout se permettre, il te mène en bateau, te surveille mine de rien, et si tu le prends pour un con, tant pis pour toi. C'est pas lui qui dira le contraire. T'as vu les grands yeux bleus de bébé? T'as pas vu la petite lumière dans le coin? T'es passé à côté de quelque chose. Les autres couvents se sont mis aussi à apprécier les maçons italiens, en ce siècle où l'ouvrier français vote Front populaire et conchit Dieu. Papa va le dimanche bêcher le jardin des Carmélites. Un homme au Carmel! Il me raconte l'éternel silence, la clochette, les précautions. Les religieuses savent parfaitement qu'il ne va jamais à la messe, même pas à Pâques, qu'il ne se soucie pas de savoir si Dieu existe ou pas. C'est lui que ça regarde là-haut, s'il a envie d'exister. C'est ses oignons. Les curés sont de braves gens, mais de gros farceurs. Ils ne passent le seuil d'une église que pour en refaire le pavage ou pour enterrer un copain. Il est plein d'histoires de curés qui couchent avec leur bonne. Ils traînent le Christ en la Madonna dans la merde quand il se cogne sur les doigts. Les ritales cubénis le regardent de haut. Papa s'en fout.
Flash and thunder loves me back. And in lightning, I can keep my energy intact. And when the lightning is like the sun, I feel what love could be. Truly illuminated, the future does lay landing lights for me. We'll be right back.
C'était donc trois extraits tirés du livre de François Cavanna, L'Hérital, un livre paru en 1978 chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Au revoir.